another song that comes from Tanzania.
Bonjour, 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 galériennes, galériens, auditeuristes, livres et amis. Eh bien, aujourd'hui, avec Dominique et Françoise au micro, sous Anna la technique. Bonjour, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 mars 2026 et l'actualité est chargée. Hein. Alors encore, je ne parle pas de l'actualité internationale parce que j'ai vraiment pas envie d'en parler, c'est clair. Et rien que l'actualité nationale et marseillaise, il y a déjà de quoi faire. Alors c'est vrai que je suis revenue à Marseille dimanche dernier, 8 mars. C'est toujours un vrai plaisir le 8 mars à Marseille avec la zone d'occupation féministe au Vieux-Port et d'ailleurs un plateau radio de Radio Galère avec une vingtaine d'autres associations. C'était super. Une manif très dynamique et cette année, vraiment, femmes, hommes, familles, petits-enfants, tout le monde était au rendez-vous avec des slogans inventifs, des batucadas survoltés. Alors, bah, j'espère que vous y étiez dimanche dernier. Mais si la Terre n'a pas cessé de tourner, rendez-vous l'année prochaine, le 8 mars. Et reste pour le mois de mars de nombreuses rencontres, projections, etc. Allez voir bah, d'abord sur le site de la ville, hein, puisque le programme lié aux droits des femmes n'est pas terminé. Et puis, allez voir nos amis culturels habituels, le Théâtre de la Criée, où jusqu'à la fin de la semaine, il y a un spectacle qui s'appelle « Au perché », un spectacle plein de femmes, justement, plein de bonnes idées, un spectacle musical et libertaire, très, très intéressant, assez surprenant, mais intéressant. Il y a vraiment eu hier soir une ovation debout. Je crois que c'est un spectacle qui donne la pêche. Donc, on va pas refuser son plaisir. Et puis, à la Joliette aussi, en cette fin de semaine et la semaine prochaine, des spectacles venus, bah oui, de France, mais aussi du Chili et du Liban. Et puis, dans nos cinémas préférés, vous savez, toujours le Gyptis, la Baleine, l'Alhambra. En particulier, le week-end qui vient, là, samedi, dimanche, au Gyptis, le gâteau du président. Alors, ne vous attendez pas à une bluette sur l'anniversaire d'une enfant. Non, c'est juste l'horreur des lendemains de la guerre en Irak et surtout l'horreur des blocus quand justement les États-Unis font le blocus d'un certain nombre de pays qui ne peuvent plus être ravitaillés de choses essentielles. On pense à Cuba en ce moment, par exemple, où la vie est très, très difficile. Et donc tous ces pays dans la vie desquels les États-Unis interviennent de façon absolument scandaleuse. Enfin bref, pour revenir au Gyptis, à la Baleine et à l'Alhambra, bientôt les festivals du documentaire et du court-métrage. Et allez consulter bien sûr les sites de nos cinémas, théâtres et librairies préférées. Vous y trouverez toutes les informations sur les rencontres et projections qui sont passionnantes. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas les élections municipales. Ah oui, dimanche, allez voter. Je vous dirai pas pour qui. Je crois qu'il y a 7 listes hein, au niveau général de la ville. Alors, vous savez que cette année, on a un nouveau mode de scrutin. On a donc un vote pour la mairie centrale et des votes, enfin, disons, un autre vote pour les mairies d'arrondissement. Alors, ça va être la joie. Je ne m'exprimerai pas davantage, mais en tout cas, c'est du sport. Bon, bien sûr, pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite, on vous invite à voter pour les autres. Et on vous invite surtout samedi après-midi, samedi 14 à 14h, à répondre à l'appel national, à la manifestation de la Marche des Solidarités. Appel national donc pour lutter contre les fascismes, les racismes, les violences d'État, etc. Et à Marseille, c'est Porte d'Aix, donc à 14h. Donc oui, on a tous rendez-vous Porte d'Aix samedi 14 à 14h et on a rendez-vous dans les urnes pour garder éloignés du pouvoir tous ceux qui, les bruns et les oui, enfin bon, j'allais dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais en tout cas, les fascistes, c'est sûr. Et c'est des gens dont on ne veut pas et qu'il faut vraiment écarter du pouvoir. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Ah ben oui, je vous avais dit actualité chargée. Alors voilà, actualité chargée, ça y est, on en a parlé. Revenons quand même à notre lecture du jour. Et c'est vrai que pendant 4 semaines, on vous a laissé avec des rediffusions. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, aujourd'hui, on revient, oui, en direct, avec un clin d'œil, ben peut-être aux droits des femmes, en tout cas, un roman, j'allais dire, de femmes. Non, ce n'est pas un roman de femmes, c'est un roman écrit par un homme, mais sur une femme et des femmes. Et un roman américain, donc, qui s'intitule « 1000 femmes blanches ». Et c'est un roman de Jim Fergus. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus fidèles de nos animatrices, non pas animatrices, auditrices, pardon. Donc pour les plus fidèles de nos auditrices et auditeurs, vous vous souvenez peut-être que je suis une fidèle du Festival américain, Festival de littérature américaine qui se déroule toutes les années paires à Vincennes, en région parisienne. Alors, on y trouve des auteurs américains, mais quand même des auteurs américains qu'on ne trouve pas habituellement sur le marché et des gens tout à fait intéressants, en dehors des grands auteurs et même parfois aussi, eux, les grands auteurs. En tout cas, j'ai rencontré dans le passé au Festival américain Jim Fergus à l'occasion d'un hommage à Jim Harrison, je crois, ça devait être en 2014. Et là, je suis retombée sur ce roman, donc « 1000 femmes blanches ». Je me suis dit « Ah oui, tiens !» Et c'est vrai que c'est un roman assez passionnant au niveau de la littérature, c'est-à-dire au niveau de vraiment l'écriture. C'est remarquablement écrit. Et puis, disons, au niveau de cette histoire incroyable que le roman raconte. 1000 femmes blanches, tiens, je vais vous lire la quatrième de couverture, puis après je vous dirai ce que j'en pense. En 1874, à Washington, le président américain Grant, il s'appelle Ulysses Grant, j'adore Ulysses Grant, accepte dans le plus grand secret la proposition incroyable du chef indien Cheyenne, Little Wolf, troquer 1000 femmes blanches contre autant de chevaux et de bisons, pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart des 1000 femmes blanches viennent en réalité des pénitenciers et des asiles de tous les États-Unis d'Amérique. Parvenue dans les contrées reculées du Nebraska, l'une d'entre elles, Maydard, apprend alors sa nouvelle vie de squaw et les rites inconnus des Indiens. Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre les tribus, puis entre les tribus indiennes et l'armée américaine. Alors voilà, c'est ça l'histoire. Hein. C'est l'histoire qui part, semble-t-il, d'un fait historique, la rencontre entre le président Ulysses Grant et le chef Cheyenne Little Wolf. Cette rencontre, elle a vraiment lieu, ça c'est sûr. En 1874, en effet, semble-t-il. On va voir dans le prologue écrit par Jim Fergus qu'il y a tout un cérémonial déployé par le pouvoir de Washington pour recevoir Little Wolf. Et donc, à partir de ce fait réel, on ne sait pas trop ce que devient le reste. Ce que devient s'il y a eu effectivement accord pour... que des femmes partent dans l'Ouest. Ça semble relativement avéré. Mais après, bon, c'est sûr qu'il n'y en a jamais eu 1000, il y en a peut-être eu 50aine, et que comme le projet a avorté en route parce que c'était trop choquant pour la société politique et même la société américaine globale de l'époque, eh bien, l'histoire a été, semble-t-il, très rapidement enterrée et il n'y a jamais eu véritablement de suite. Mais en tout cas, ce qu'il y a de passionnant, c'est que justement, ce fait historique un peu passé à la trappe donne l'occasion à Jim Fergus d'écrire un roman absolument passionnant, dont évidemment, et comme d'habitude, on va vous lire des extraits après que je vous ai raconté quand même, enfin du moins que je vous ai donné une analyse personnelle de la raison pour laquelle c'est passionnant. D'abord, ça se passe entre Chicago, d'une part, la ville de Chicago, et les Grandes Plaines. Alors, vous savez, les Grandes Plaines aux États-Unis, c'est en effet ce qu'on appelle les plaines du Midwest, les États du Dakota, du Nebraska, du Montana, des étendues dans lesquelles il y a sur des dizaines... des centaines d'ailleurs de kilomètres, du maïs, du maïs, du maïs, ou bien de la poussière, de la poussière, de la poussière. On passe les Badlands, c'est splendide. On arrive dans les Black Hills, c'est splendide, mais ça fait quelquefois un peu peur parce que là, on est sur des centaines et des centaines de kilomètres de pins et de sapins et de forêts hyper touffues et serrées, etc. Et quelquefois, on ne voit plus le ciel tellement les arbres sont serrés. Et donc, des paysages de montagnes qui se dressent à l'ouest, de rivières assez tumultueuses à la saison des pluies ou de la neige qui fond, de rivières asséchées à d'autres moments, enfin bon, des paysages assez extraordinaires. Des hommes qui ont été évidemment passés là vraiment à la trappe de l'histoire, hein, les Amérindiens des Grandes Plaines, ils ont été battus, combattus, massacrés. Ils subsistent, un certain nombre d'entre eux, dans des réserves qui sont vraisemblablement les zones les plus pauvres des États-Unis, peut-être même encore plus pauvres que les zones pauvres des villes. Si vous n'avez jamais vu de cahutes en terre goudronnée, en toile goudronnée, de rues non pavées, de rues non asphaltées, ben, allez voir les réserves indiennes des Grandes Plaines. C'est vraiment le quatrième monde au sein des États-Unis. Et ça, c'est quand même intéressant de le voir et de voir se mettre en place à travers les massacres des Indiens à la fin du 19e siècle. Bon, vous m'excuserez, moi, je suis une vieille dame. Les Indiens, quand j'étais petite, je les appelais les Indiens. Alors, je continue à les appeler les Indiens. Il faut dire... les Amérindiens ou à la rigueur les populations natives, mais moi, j'ai un vocabulaire tordu, enfin je dis toujours les Indiens, hein. Et encore je ne dis pas les peaux rouges, mais quand j'étais petite, on disait les peaux rouges. Bref, ces gens qui ont une vraie civilisation, des vraies coutumes fabuleuses et super intéressantes, ils sont, comme je le disais, passés à la trappe de l'histoire. Ensuite, la civilisation, entre guillemets, américaine leur est passée dessus, en ce sens que les enfants ont été enlevés dans les tribus et éduqués dans des pensionnats affreux et immondes, dans des pensionnats donc, où on leur inculquait de force les valeurs de l'Occident, la religion chrétienne, etc., etc. Donc, tout a été fait pour occulter ces populations amérindiennes. Et là, pour une fois, dans le roman de Jim Fergus, on les retrouve avec, disons, au sein de la nature passionnante, on l'a vu, splendide, et puis avec leurs traditions, leurs rites, leur histoire, qui n'est pas rose d'ailleurs, hein, mais qui quand même mérite d'exister. Alors, avec le roman de Jean Fergus, en effet, on sort de l'histoire ou de la vérité historique et on entre dans la fiction, puisque à partir de ce petit fait très peu répandu et très peu étudié d'un envoi d'une cinquantaine de femmes vers les plaines de l'Ouest en 1875 à peu près, eh bien, Jim Fergus bâtit un roman tout à fait passionnant. Il imagine que les femmes envoyées à l'Ouest sont, comme toujours hein, à l'époque, enfin, disons depuis le XVIIe siècle, les femmes qui allaient coloniser les terres étrangères, c'était pour une très petite minorité des femmes éduquées ou de la bonne société et pour une grande majorité des réprouvées sociales, des prostituées, des condamnées à des condamnées de droit commun, des condamnées à l'enfermement dans des asiles pour des raisons qui n'étaient souvent que là encore des raisons sociales. Mais enfin, toujours est-il que il y a un ensemble de portraits de femmes qui sont peut-être imaginaires, mais qui sont là encore fondées sur des réalités et qui sont toujours aussi tout à fait passionnantes. On découvrira même dans le roman de Jean Fergus qu'au sein des 1000 ou plutôt 50 femmes blanches, il y a même une noire. Enfin, Jim Fergus s'est donné le plaisir d'imaginer qu'il y avait une femme noire qui avait pris place dans ce groupe de femmes blanches, et on verra tout à l'heure son portrait. Alors, je vous lis le prologue, donc prologue de présentation de l'histoire, justement, avant de donner la parole à Françoise pour qu'elle nous lise vraiment le roman. Alors, prologue. Accompagné d'une délégation d'hommes de sa tribu, le grand Tom Médecine, le chef Cheyenne Little Wolf, entreprit au mois de septembre de l'année 1874 de traverser les terres américaines jusqu'à Washington dans l'intention expresse de négocier une paix durable avec les Blancs. Little Wolf, qui avait passé plusieurs semaines à fumer le calumet et à débattre posément des différentes initiatives conciliables avec 44 chefs de conseils tribaux, se rend à la capitale muni d'une proposition assez particulière, quoique partiellement rationnelle du point de vue Cheyenne. On pourrait dire parfaitement rationnelle du point de vue Cheyenne. Proposition destinée à assurer la sécurité et la prospérité d'un peuple assiégé de toutes parts. Le chef indien, Little Wolf, fut reçu à Washington avec la pompe normalement déployée pour un chef d'État étranger. Au cours d'une cérémonie formelle au Capitole, en présence du président Ulysses Grant et d'une commission extraordinaire du Congrès, Little Wolf fut décoré de la médaille de la paix présidentielle. C'était un insigne d'argent sculpté qu'il allait arborer de façon permanente et sans la moindre ironie plus tard dans toute sa vie. Une chose inconnue des Cheyennes, bien sûr. Une médaille donc destinée à le protéger ensuite lors des nombreux combats désespérés quelquefois qui opposèrent son peuple encore libre à l'armée américaine. Alors sur la médaille, il y a le profil du président Grant. Il est gravé d'un côté, cerné de la mention circulaire « Vivons ensemble dans la paix, la liberté, la justice et l'égalité ». Ben voyons. L'autre face représentant une Bible ouverte au-dessus d'un râteau, d'une charrue, d'une hache, d'une pelle et de divers outils de ferme, puisque ce que Grant et les autres conseillers de Washington avaient en tête, c'était de sédentariser les Indiens pour, en effet, pacifier les plaines et surtout envahir le territoire. Et donc, sur cette deuxième face, la mention, c'est « Paix et bonne volonté aux hommes de la terre ». Participèrent également à la rencontre tout à fait historique l'épouse du président Grant, Julia, qui l'avait supplié de la laisser y assister pour observer de près des sauvages dans leurs plus beaux atours, ainsi que quelques membres privilégiés de la presse de Washington. Voilà. Eh oui, c'est quand même tout à fait spécifique. Hein. La rencontre a eu lieu. De vieux daguerreotypes de l'Assemblée réunie montrent les Cheyennes en grande tenue de cérémonie autour du président. Ils avaient revêtu de fins mocassins cousus de perles, des jambières de cuir sur les franges desquelles cliquaient des dents de wapiti, des tuniques de guerre en peau de cerf aux coutures garnies des scalpes de leurs ennemis, minutieusement ornés de perles et de piquants de porc-épic teint. Ils portaient dans les cheveux des pièces d'argent frappées et leurs tresses étaient garnies de rubans de couleur ou de rubans de cuivre. Ils portaient aussi des franges en peau d'hermine au-dessus de leurs cheveux ou de leurs coiffes. Jamais à Washington on n'avait vu un tel spectacle. Le chef prit la parole. Et il dit « Le peuple », les Cheyennes se référaient très simplement à eux-mêmes sous la forme « le peuple ».« Le peuple est une petite tribu. Les Cheyennes sont en nombre moins important que les Sioux ou les Arapahos. Nous n'avons jamais cherché, nous, les Cheyennes, à nous multiplier, car nous savons que la terre ne peut porter qu'un certain nombre d'entre nous, de la même façon qu'elle abrite seulement un certain nombre d'ours, de loups, de wapitis, d'antilopes et d'autres animaux. Car s'il existe trop de bêtes d'une espèce donnée, elles meurent de faim jusqu'à ce qu'il s'en trouve à nouveau la bonne quantité. Nous préférons rester peu, mais avoir chacun suffisamment à manger plutôt que mourir de faim. Cette petite partie du prologue montre bien que les Indiens étaient des écologistes avant l'heure, hein, et ça c'est quelque chose qu'on connaît tout à fait, que les populations primitives sont souvent tout à fait conscientes de la limitation des ressources à leur disposition. Je continue. À cause du mal que vous avez apporté avec vous, à cet instant, Little Wolf pose la main sur sa joue couverte de cicatrices, à cause des guerres que vous nous avez déclarées, et là il met sa paume sur sa poitrine car il a maintes fois été blessé au combat, nous sommes maintenant peu nombreux. Le peuple disparaîtra bientôt entièrement, comme les bisons de notre pays. Je suis le grand homme médecine de mon peuple et mon devoir est d'assurer sa survie. Cela n'est possible pour nous qu'en intégrant le monde de l'homme blanc. Je veux dire que nos enfants doivent devenir membres de votre tribu. C'est pourquoi nous avons l'honneur de demander au grand-père, le grand-père évidemment c'est le président américain, le présent de 1000 femmes blanches. Nous les épouserons afin d'apprendre à nous et à leurs descendants, nos descendants, la vie nouvelle qu'il nous faudra mener quand le bison aura disparu. Alors, la suite, évidemment, la réponse officielle, ce sera le génocide d'une race entière. Mais le génocide d'une race entière étant considéré par le grand nombre de l'époque comme moralement tentant et politiquement acceptable, eh bien, les membres les plus progressistes du cabinet Grant se doutaient que l'idée d'accoupler des femmes blanches avec des sauvages ne trouverait jamais d'écho favorable auprès de l'opinion publique. C'est pourquoi, comme au bon vieux temps, comme toujours, on pourrait dire, l'administration décida, au cours d'une série de réunions confidentielles, de prendre l'affaire en main, puis de lancer l'opération, mais sous le sceau du secret, et le programme matrimonial convenu ne prendra jamais l'étendue considérée au départ. Les hommes du président apaisèrent leur mauvaise conscience en stipulant que les femmes associées à l'audacieux projet seraient toutes des volontaires, en quelque sorte vendues par correspondance, et d'autant plus légitimes, morales, qu'elles bénéficiaient de la tutelle de l'Église. En effet, un encadrement chrétien doit être pourvu à ces femmes. Le point de vue officiel était que si des aventurières dévouées et généreuses décidaient de leur plein gré de partir vivre à l'Ouest et que leur arrivée chez les Indiens se traduisait par une réduction des belligérances, tout le monde serait content. C'était, dans d'autres termes, un parfait exemple de politique jeffersonienne alliant le principe d'initiative personnelle à la philanthropie. Ah oui, Jefferson, ça me fait penser, vous savez, au Mount Rushmore. Si vous n'avez jamais vu le Mount Rushmore, allez sur Internet voir Mount Rushmore. Ces têtes, ces quatre têtes de présidents gravées dans la roche au sud du Dakota du Sud. Bien connues d'ailleurs par les films d'Hitchcock, par les films... C'était de qui, Mars Attacks ? Je ne me souviens plus. Enfin, dans Mars Attacks, ils resculptent les têtes des présidents et elles sont remplacées par des têtes d'aliens. Et alors quand même, il y a une cinquantaine d'années, les tribus, ou ce qu'il en restait, les tribus amérindiennes ont protesté contre le fait qu'il y avait en plein milieu de chez eux, là dans le Dakota du Sud, les quatre têtes de présidents et qu'il n'y avait pas de référence justement aux populations amérindiennes. Donc, presque au dos, enfin en tout cas pas très loin du Mount Rushmore, on a commencé à sculpter le Crazy Horse Monument, c'est-à-dire la sculpture dans la roche du chef indien Crazy Horse. C'était il y a 50 ans et je vais vous dire que moi j'y suis allée il y a quoi, 20 ans ? Peut-être pas tout à fait, non, un peu moins. Enfin bon, il n'était toujours pas fini Crazy Horse. C'est vous dire toute l'attention que les gouvernements successifs des États-Unis ont donnée à la sculpture de Crazy Horse. Enfin bon, il y a quand même, on le voit, on voit une tête d'Indien dans le rocher. C'était un aparté personnel sur les têtes des présidents et la tête de Crazy Horse. Mais c'est sûr que quand on traverse les terres indiennes des grandes plaines, on est quand même frappé par la façon dont dont les tribus ont été traitées, puisque les représentants qui restent sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les réserves ou dans les casinos, parce que dans la bonne logique évangéliste américaine, les casinos, c'est un endroit de mauvaise vie, enfin, je ne sais pas, un endroit de péché, un endroit de chute mentale et spirituelle. Donc, les casinos, ils sont tenus par les Indiens. Et autour des casinos, il y a des boutiques de souvenirs. Hein. Vous pouvez acheter des attrape-rêves et des petits bracelets en turquoise, vendus justement par les gens qui restent là et qui habitent encore là. Alors, reprenons. Le projet Femme Blanche pour les Indiens avait son talon d'Achille et l'administration le savait. Elle anticipa donc l'éventuelle, et même certaine, pénurie de volontaires en allant recruter des femmes dans les prisons et les pénitenciers, auprès des insolvables et dans les asiles de fous. On leur offrit l'absolution ou la liberté, sans condition, sous réserve bien sûr de s'enrôler dans le départ. Le gouvernement avait fini par comprendre, au contact des indigènes, qu'il s'agissait de gens terre à terre pour lesquels les traités devaient être respectés à la lettre. Donc, si les Cheyennes avaient demandé 1000 épouses, ils s'attendaient à en recevoir exactement ce nombre et offriraient en échange 1000 chevaux, ni plus ni moins, pour remplir leur part de contrat. Alors, ainsi fut-il fait, au moins au début. L'administration s'assura qu'il fallait libérer au moins quelques criminels de droit commun et quelques inoffensives arriérées mentales pour remplir le premier train de femmes blanches en partance pour les grandes plaines du Nord ou les grandes plaines de l'Ouest, avec au programme une vie maritale nouvelle dans la nation Cheyenne. Elle devait quitter donc Chicago et c'est au début de mars 1875, soit un peu plus de 6 mois après la rencontre avec Little Wolf, que le départ du premier train est organisé. Ce train, en fait, amène déjà quelques femmes de New York, de Boston, de Philadelphie vers Chicago, qui est effectivement leur point de départ vers les Grandes Plaines. Et c'est là que le roman prend le relais de l'histoire, puisque Jim Fergus écrit « Le 23 mars 1875, une jeune femme répondant au nom de Maydard fêtait son 25e anniversaire. Ancienne patiente de l'asile d'aliénés privée de Lake Forest, située à 50 km au nord de Chicago, elle prit place, avec 47 autres volontaires et recrues de la région, dans un train de l'Union Pacific à destination du camp Robinson dans le territoire du Nebraska. » Et donc, oui, Chicago-Nebraska, pas tout à fait en direct, hein, ça va être très compliqué. Je vous passe le récit que donc May Dodd, le personnage mis en place par Jim Fergus, nous décrit. Mais enfin, il n'empêche que Jim Fergus imagine que May Dodd va, à partir de ce jour, du 23 mars 1875, rédiger des carnets. Et il dit... Excepté quelques ajustements minimes du point de vue de l'orthographe et de la ponctuation, les carnets présentés au chapitre suivant n'ont pratiquement pas subi de correction. Ils ont été transcrits comme leur auteur, May Dodd, les a écrits. S'ils contiennent de temps en temps des lettres adressées à sa famille et à ses amis, rien ne permet d'affirmer que ces lettres aient été acheminées. C'est donc un récit à la première personne, où May nous fait part de ses rencontres, de ses aventures dans cette grande route vers l'Ouest. Les lettres sont présentées dans l'ordre et sous la forme où elles apparaissent dans les carnets originaux de May Dodd. Eh bien, en attendant la lecture des carnets de May Dodd, on va laisser, comme d'habitude, la place à une petite pause musicale. Vous allez avoir des chants amérindiens, des chants de pratiques religieuses amérindiennes Et vous allez voir, c'est vraiment fait pour la méditation. Hein, si vous, s'il vous plaît, ne vous endormez pas. Quand on les voit sur scène chanter, les Indiens, c'est absolument extraordinaire parce que ceux qui chantent, dans la plupart des cas, qui viennent de tribus Oglala, du nord-ouest des États-Unis ou de la frontière canadienne, ce sont d'immenses hommes, parce que ce sont des chants d'hommes, et des gens qui frappent des tambours. Ils chantent et ils frappent des tambours. Ils mesurent tous pratiquement 2 mètres. Ils sont larges en proportion. Et ils délivrent un chant qui, vous allez l'entendre, est un chant venu du fond de la poitrine. Donc imaginez que c'est un chant qui vient du fin fond des grandes plaines. Alors, on me faisait remarquer, enfin non, Suan me faisait remarquer que vraisemblablement, les images du clip d'accompagnement sont des images générées par IA. Et en effet, quand on regarde à quoi ça ressemble, ben oui, on s'en doute parce qu'on voit des femmes indiennes et des enfants courir entre les tipis, etc. Enfin, une espèce d'imagerie... je dirais sulpicienne de la réalité des Amérindiens. Par contre, les chants, eux, sont vraiment des chants réalistes, enfin, des chants vraiment existants. Et vous voyez, j'étais mauvaise langue. En fait, il y a aussi quelques femmes qui participent aux chants. Mais dans les spectacles que les Amérindiens donnent, pour d'ailleurs souvent recueillir des fonds au bénéfice des membres de leur tribu. Dans les spectacles, donc, il y a en général uniquement des hommes. Et c'est vrai que ces voix d'hommes sont impressionnantes. Et encore là, dans l'extrait qu'on vous a passé, il y a une relative mélopée, enfin une relative harmonie, disons, du chant. Alors que quelquefois, c'est vraiment très, très monocorde. Enfin, c'est assez passionnant comme musique et comme chant. Bon, en attendant, on va reprendre la suite de l'histoire de May George. Et donc, en particulier, c'est Françoise qui va nous lire le début du carnet.
23 mars 1875. C'est aujourd'hui mon anniversaire et j'ai reçu le plus beau des cadeaux, la liberté. Je griffonne maladroitement ces premières lignes à bord d'un train de l'Union Pacific, parti ce matin à 6h35 de la gare de Chicago, vers l'ouest et le Nebraska. On nous a dit que le voyage allait durer 14 jours, avec un changement de train à Omaha. Si notre destination finale est sciemment gardée secrète, j'ai surpris les conversations des soldats de l'escorte. Les militaires sous-estiment l'acuité d'une oreille féminine. Et j'ai appris que le train nous emmène tout d'abord à Fort Sidney, d'où nous serons ensuite convoyés en chariot vers le Wyoming, à Fort Laramie et finalement à Camp Robinson dans le Nebraska. La vie est si imprévisible. Quelle sensation étrange de me trouver dans ce train en route pour un long voyage et de contempler la ville qui s'éloigne. Je me suis assise dans le sens contraire de la marche pour garder avec moi une image fuyante de Chicago, son épais nuage de fumée charbonneuse qui, à la manière d'un parasol géant, s'étend au-dessus des rives du lac Michigan. Toute grouillante et noire, la cité vient une dernière fois de défiler sous mes yeux. Son éclat et ses bruits m'ont tant manqué dans le silence et l'obscurité de la réclusion. Et j'ai maintenant l'impression d'être un personnage de théâtre, arraché au monde réel et voué à un terrible rôle que l'auteur n'aurait pas encore écrit. Comme j'envie ces gens que j'aperçois depuis la fenêtre du train, pressés de retrouver la sécurité d'un labeur quotidien, tandis qu'on nous emporte, déjà captifs d'un destin et d'un monde inconnu. Nous longeons maintenant les enchevêtrements de petites bicoques qui ont poussé partout après le grand incendie de 1871. Avec leurs charpentes grossières assemblées à la hâte, vacillant sous le vent comme un château de cartes, elles forment une clôture improbable autour de Chicago, désireuse, semble-t-il, de contenir l'expansion constante de la métropole. Salles et en haillons, des enfants qui jouent dans les cours boueuses s'arrêtent pour nous regarder passer, comme s'ils voyaient en nous les créatures d'un autre monde. Mes propres enfants me manquent terriblement. Je ne sais ce que je donnerais pour les voir une dernière fois et les serrer contre moi. Derrière ma fenêtre, je fais un signe de la main à ce tout petit garçon qui, malgré ses cheveux blonds et crasseux, me rappelle mon cher William. Les boucles grasses de celui-là bordent un visage crotté et des yeux immensément bleus. Hésitant, il lève à mon intention une minuscule menotte et me rend mon salut, ou plutôt mes adieux. Je le regarde devenir de plus en plus petit, tandis que nous quittons les derniers avant-postes de la misère civilisée. Le soleil d'Orient illumine la ville dont les contours bientôt se fondent dans le lointain. Mes yeux restent rivés sur elle aussi longtemps que mon regard le peut. Alors seulement, je trouve assez de courage pour changer de siège, tourner le dos à un passé sombre et agité, pour faire face à un avenir terrifiant, incertain. J'ai le souffle coupé devant le spectacle des terres immenses qui s'ouvrent devant nous, de l'indescriptible étendue de la vaste prairie solitaire. J'en reste étourdie, défaillante, mes poumons me donnent l'impression de s'être soudain vidés et moi de m'être jetée à la lisière du monde, précipitée la tête la première dans le vide infini. Peut-être que, oui, c'est peut-être bien ce qui m'arrive.
Alors en fait, oui, c'est quand même l'intérêt de ce roman. On le découvre très vite, dès le début. c'est de faire la part à la réalité. Vous avez ici, avec le départ de May de Chicago, une description de la réalité sordide des banlieues de Chicago. Vous avez une vraie description, donc, de la pauvreté qui entoure la grande ville. Et puis aussi cette espèce de séparation drastique qui existe toujours aux États-Unis entre les villes et les grands espaces. Évidemment, quand on va à New York ou à Washington ou à Chicago, si on y va en avion, on n'a aucune idée de ces immenses espaces qui s'ouvrent, comme le dit May, dès qu'on sort de la ville. Alors on reprend.
Mais voici soudain une rencontre amusante. Tandis que je regardais les tétras s'envoler devant nous, une grande femme anguleuse et à la peau très claire, aux cheveux de sable coupés courts sous une casquette de tweed, a traversé en hâte l'allée centrale en s'arrêtant à chaque fenêtre pour observer un instant la course des oiseaux avant de repartir vers la banquette suivante. Comme elle porte un costume d'épais coton peigné irlandais avec des culottes bouffantes, on la prendrait aisément avec ses cheveux courts et son couvre-chef pour une personne de l'autre sexe. Son veston d'homme est complété par un gilet, des bas, de grosses chaussures de marche et elle se déplace avec un carnet à croquis. « Vous m'excusez, je vous prie, n'est-ce pas ?» demande-t-elle aux occupants de chacune des banquettes où elle prend successivement place afin de profiter du meilleur angle de vue. Elle parle avec un très net accent britannique. « Veuillez vraiment me pardonner !» Et elle continue de s'exclamer, les sourcils levés, avec un regard où se lisent l'étonnement et le plaisir. « Fantastique, magnifique, splendide !» Lorsqu'elle prend finalement la place restée libre près de moi, les poules de la prairie sont parties à tire-d'aile vers de lointains horizons et l'anglaise dégingandée s'affale, les jambes molles sur la banquette. Grand gallinacé sauvage, dit-elle, non scientifique, Tympanicus cupido, dit également tétra, cousin des gousses d'Écosse, appelées communément poules de prairie. Ce sont les premières que je vois en liberté, même si j'ai bien sûr étudié certains spécimens. J'ai aussi vu de près, évidemment, la branche orientale de l'espèce, le coq de bruyère, lors de mes voyages en Nouvelle-Angleterre. Son nom vient des mots grecs, tympananon, qui veut dire timbale, et échein, qui signifie en posséder un, par référence à un œsophage évasé de chaque côté de la gorge, qui permet au mâle de se gonfler littéralement devant les femelles, puis de faire ce bruit caractéristique lorsqu'elles répondent à ses avances. On appelle aussi cupidon des prairies. Je m'empresse d'ajouter qu'il ne faut y déceler aucune allusion à l'amour. C'est simplement que les longues plumes raides qui se dressent sur la tête du mâle lorsqu'il fait sa cour, ressemble à celle d'un angelot. Elle se tourne maintenant vers moi, comme si elle venait de me remarquer, braquant sur mon visage cet air continuellement surpris, gravé dans sa contenance britannique et son teint de lait. Les sourcils levés et un sourire ravi aux lèvres, elle semble vouloir dire que le monde en lui-même n'est pas seulement merveilleux, mais aussi parfaitement étonnant. J'espère que vous voudrez bien m'excuser d'être aussi bavarde. Je m'appelle Hélène Elizabeth Flight, dit-elle en me tendant sa main avec une droiture toute masculine. Peut-être connaissez-vous mes travaux. Mon ouvrage « Les oiseaux d'Angleterre » en est à sa troisième réédition. Toute la typographie est assurée par ma chère amie et collaboratrice Miss Anne Hall de Sunderland. Malheureusement, Miss Anne, indisposée, n'a pu m'accompagner aux États-Unis où je suis venue chercher des spécimens et ébaucher quelques esquisses pour mon prochain livre « Les oiseaux d'Amérique ». À ne pas confondre, bien sûr, avec la série de M. Audubon dédiée au même sujet. C'est un peintre intéressant, ce M. Audubon, bien qu'un peu trop fantaisiste à mon goût. J'ai toujours trouvé que ces oiseaux étaient dépeints d'une manière bien capricieuse. Il se moque franchement de la biologie, vous ne trouvez pas ? Je me doutais que ce n'était pas seulement une question de pure forme. Tandis que je m'efforçais de penser à une réponse, Miss Flight demanda encore. « Et vous êtes ?» Le sourcil toujours haut d'étonnement, anticipé, comme si révéler mon identité en sus d'être une affaire de la plus grande urgence devait apporter également son lot de surprises. « May Dodd. Ah, May Dodd, très bien. » Vous m'avez l'air de ne pas avoir les yeux dans la poche avec ça. Je me suis demandé en voyant votre teint clair si vous n'étiez pas d'origine britannique. Écossaise, mais 100% américaine, née et élevée à Chicago, ajoutai-je d'un air vaguement mélancolique.
Alors, c'est vrai que là, c'est un aspect complètement différent du roman. C'est que, en dehors du fait de nous décrire les grandes plaines et les tribus amérindiennes, Jim Fergus nous fait également une galerie de portraits, puisque à travers les femmes qu'il imagine faire partie de ce régiment, entre guillemets, partant pour vivre dans les tribus indiennes, enfin chez les Cheyennes en particulier, il imagine en effet, ou il met en place, pourrait-on dire, ce que j'appelais une galerie de portraits, c'est-à-dire des personnalités, des physiques très différents. Et c'est vrai que j'ai eu un plaisir tout à fait important à vous faire lire par Françoise le portrait de cette naturaliste imaginée dans un voyage scientifique, dans un voyage, on pourrait presque dire, d'études et de recherches. On peut imaginer en effet que pour bénéficier du voyage vers les plaines, qui était à l'époque une grande difficulté et une grande rareté, une scientifique, en effet, un petit peu comme Darwin avec les expéditions dans le Pacifique presque à la même époque, une scientifique donc se mêle au groupe pour aller étudier de près la nature des grandes plaines des États-Unis et en particulier sa spécialité, l'ornithologie et donc les oiseaux qui vivent là. Alors les grands tétras, bien sûr, c'est un des je sais pas comment on peut dire, un des marqueurs du paysage dans les grandes plaines. Et quand notre scientifique là, imaginaire parle du livre d'eau du bon, bah bien sûr, le livre d'eau du bon, c'est un des grands classiques de la nature américaine, ou du moins de la peinture de la nature américaine, et des choses auxquelles, même si ça a l'air d'être un petit peu méprisé par notre personnage féminin, une des représentations toujours très reconnue de la nature américaine et des animaux de la nature américaine. Alors, je vous disais tout à l'heure que Jim Fergus prenait la liberté dans son groupe de femmes blanches d'inclure une femme noire. Et on imagine, il imagine plutôt, que parmi le groupe des femmes qui veulent aller dans l'Ouest pour recouvrer la liberté, comme Maydard veut être libérée de son asile, eh bien, il y a des femmes noires qui vont prendre ce voyage pour raison de leur, ou par volonté, disons, de libération, de l'esclavage, ou du travail presque d'esclaves qu'elles ont connu après dans les villes du Nord. Donc, Maydard rencontre une autre femme, une femme noire, à qui elle dit « Mais vous avez l'air d'une africaine, Fémy, d'une princesse africaine même, dirais-je, vous êtes si belle. » « Ah oui, ma mère était originaire de la tribu des Ashanti, les plus grands guerriers de toute l'Afrique. » Un jour, alors qu'elle était une jeune fille, elle est partie avec sa mère et les autres femmes ramasser du bois pour le feu. Elle avait du mal à les suivre, elle était enfant encore. Elle s'est assise pour se reposer sans inquiétude, car elle savait que sa mère reviendrait la trouver. Et alors qu'elle était endormie sous un arbre, quand elle s'est réveillée, des hommes d'une autre tribu étaient là. Ils lui parlaient une langue qu'elle ne comprenait pas, et elle fut faite prisonnière par ces hommes. Ils l'ont emmenée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Ils l'ont gardée enchaînée jusqu'à ce que d'autres personnes arrivent et qu'on l'enferme cette fois-ci dans les soutes d'un bateau avec des centaines d'autres noirs. Le voyage a duré des semaines. Sans comprendre ce qui lui arrivait, cet enfant, oui, ma mère était une enfant, elle ne comprenait pas, elle ne comprenait rien, elle ne mangeait qu'à peine. Et quand elle pensait à sa mère, elle a peu à peu cessé de croire qu'elle viendrait la chercher. Elle est restée en vie assez miraculeusement et le bateau est finalement arrivé dans une de ces villes que, bien sûr, ma mère n'avait jamais vue et même pas imaginée. Beaucoup de ses compagnes ne portaient que quelques vêtements. Elle n'avait pu rassembler qu'un peu de nourriture au fil des jours et la mort était chaque soir présente. Mais ma mère m'a raconté qu'elle était jeune et forte et qu'elle avait, à ce moment-là, été vendue. Et ensuite, c'est moi qui ai pris la suite, qui suis devenue une petite fille esclave. Et c'est ma mère elle-même qui m'a poussée à quitter la plantation. Dès qu'un groupe s'est dirigé vers le nord, vous savez, cette fameuse Underground Railroad, dès qu'un groupe s'est dirigé vers le nord, je l'ai suivi. J'ai couru à travers les forêts, les marais, les canets. Je n'ai jamais arrêté de courir. Nous entendions parfois des chiens aboyer derrière nous. Et toujours, nous devions marcher dans l'eau, le long des ruisseaux, au bord des lacs, pour qu'ils perdent notre trace. Nous avons continué. Des semaines entières, j'ai poursuivi vers le nord, en voyageant de nuit, en me cachant la journée dans les sous-bois. Nous mangions ce que nous pouvions dans la forêt, dans les champs, des racines, des herbes, quelquefois des fruits ou des légumes volés dans les fermes ou dans les jardins. J'avais faim, je ne savais jamais où j'étais, mais nous gardions toujours cette étoile du nord en ligne de mire. Nous recherchions, à l'aide de repères que nous avions la nuit, ce nord qui était la liberté promise. J'ai souvent eu envie d'entrer dans des villes en chemin pour mendier un peu de nourriture, mais il ne fallait pas. Je portais sur le dos les initiales de mon ancien maître gravées dans ma peau. Si l'on m'avait capturé, j'étais sûre qu'on me ramènerait chez lui et que ma punition serait terrible. Alors, des semaines de solitude en pleine campagne, nous avons commencé à nous souvenir de ce que nous avons vécu avant. Moi, je me souvenais de ce que ma mère avait dit de son peuple, des hommes qui avaient été chassés, des femmes qui faisaient la cueillette, mais qui ne pouvaient plus vivre librement. Nous avons survécu sur la route de la liberté, et j'ai pris ce chemin du Nord, oui. Comme si, bien des années après, la mère de ma mère était encore celle qui veillait sur moi. J'ai fini par franchir la frontière canadienne, au bout de quelques mois. Je suis allée voir les gens dont on m'avait donné les noms, et on m'a placée au service d'une famille, chez un médecin. J'y étais très bien traitée, et j'ai pu continuer à m'instruire. J'ai vécu parmi eux presque 10 ans. Ils me payaient honnêtement en échange de mon travail. Mais un jour, j'ai remarqué ce petit encart dans un journal où l'on demandait des jeunes femmes célibataires de toute race, confession et couleur qui, si elles le souhaitaient, pouvaient se porter volontaires dans le cadre d'un grand programme sur les territoires de la frontière de l'Ouest. J'ai répondu, et c'est comme ça que je suis là. « Mais, Fahimi, vous n'étiez pas heureuse chez ce docteur au Canada ? Pourquoi les avoir quittés pour vous lancer dans une aventure pareille ?»« Ah oui, la famille du docteur, c'était des gens bien, je les aimais beaucoup. Mais voyez-vous, mais je restais, quoi qu'il en soit, au service de quelqu'un. On me payait mes heures de travail, mais j'étais encore aux ordres des Blancs. Et plus que cela, je rêve d'être une femme libre, une femme réellement indépendante, tributaire de personne. Je le dois à ma mère, je le dois à mon peuple. » Je sais que pour une femme blanche, pour vous, c'est peut-être, comme vous, c'est peut-être difficile à comprendre. Mais non. Je lui donnais une petite tape sur le dos de la main. Vous seriez étonnée, Fémi, de savoir à quel point je ressens ce besoin de liberté. Ce besoin de liberté, donc, c'est ce qui a poussé May, c'est ce qui a poussé Fémi à partir vers l'Ouest. Et quand elles partent vers l'Ouest, quand elles traversent les grandes plaines, d'abord en chemin de fer, puis en chariot, eh bien, on l'a vu tout à l'heure avec la présence de la naturaliste, elles sont aussi en face de la nature qu'elles n'ont pratiquement jamais vue là où elles vivaient auparavant, ces grands territoires de l'Ouest qui s'ouvrent à l'infini. Alors, je reprends ma lecture. Nous avons franchi le fleuve Missouri il y a 3 jours. Et passé une nuit dans une pension à Omaha. L'escorte militaire, je préfère dire nos gardes, nous traite plus comme des prisonnières que comme des volontaires au service du gouvernement. Ils sont méprisants, sarcastiques, et leurs ricanements semblent indiquer qu'ils connaissent la nature faustienne de notre contrat avec l'État. On nous a empêchés de visiter Omaha, on nous a empêchés de sortir de notre pension. C'est absolument terrible. Sans doute craignent-ils que nous changions d'avis et que nous prenions la poudre d'escampette. Le lendemain matin, nous sommes donc remontés à bord d'un autre train qui allongeait plusieurs jours, enfin au moins 2 jours entiers, des falaises qui dominent la Platte River. Curieux fleuve en réalité, très large, très lent, très gonflé en bas de ces falaises. Nous avons traversé un petit campement, le campement de Grand Island, où le train s'est réapprovisionné. Mais là encore, on nous a interdit de descendre. Puis nous avons suivi la direction du nord-ouest, vers un village fangeux au bord de Platte. Et à nouveau, rien à faire, pas moyen de descendre sur le quai, se dégourdir les jambes. Hier, à l'aube, nous avons assisté à un spectacle remarquable. Des milliers, je dirais même peut-être des millions de grues étaient là, dans le fleuve, sur le fleuve. Obéissant à quelques signaux ou simplement effrayées par l'arrivée du train, elles se sont subitement toutes envolées, s'élevant au-dessus de la surface de l'eau comme un seul être pour former un immense drap soulevé par le vent. Notre ornithologue britannique, Miss Flight, était paralysée par l'émotion. Elle n'en perdit pour autant l'usage de la parole. « Fantastique !» disait-elle. « Fantastique ! Absolument extraordinaire !» J'ai vraiment cru que ses sourcils allaient eux aussi s'envoler au-dessus de son front. « Un chef-d'œuvre !» s'émerveillait-elle. « Un chef-d'œuvre de la nature !» J'ai d'abord trouvé sa remarque curieuse pour me rendre compte finalement à quel point sa description était juste. Des oiseaux se dégageaient un tel bruit qu'on l'entendait malgré le réjouissement de la locomotive. Des millions d'ailes inimaginables, comme le grondement de tonnerre ou comme la voix d'immenses cascades ponctuées par les étranges craquettements des grues. Un cri d'un autre monde. Nous étions déjà dans un autre monde. Et ces battements d'ailes, à la fois lourds et élégants, les corps si grands qu'on ne les croirait pas capables de voler, leurs pattes ballantes et maladroites qui ressemblaient à des rubans de chiffon issus d'un cerf-volant d'enfant. Oui, c'était le chef-d'œuvre de la nature. Sans doute, après le long confinement spartiate que j'avais enduré, derrière mes 4 murs à l'asile, derrière ma porte fermée, le spectacle d'une telle liberté, c'était incroyable, c'était plus merveilleux encore. Comme cette terre, ce matin, me semblait un endroit merveilleux pour vivre et se sentir libre. Oui, je n'ai pas de mal à m'adapter à la vie maintenant, et je n'aurai sûrement pas de mal à m'adapter à la vie sauvage. Tout vaut mieux que les murs et les portes fermées de l'asile. Je n'ai pas encore d'idée véritable de ce pays étrange et nouveau. Comparé à celle de l'Illinois, les vastes plaines que nous traversons maintenant ont un aspect aride, ingrat, et les rares fermes que nous rencontrons ou que nous voyons au loin, le long de la plaine inondée du fleuve, respirent plutôt la pauvreté. Les travailleurs des champs ont un air désolé, découragé, comme s'ils avaient renoncé à leurs rêves. Mais nous avons tout de même remarqué des hommes qui labouraient des champs, et avec leur attelage de bœufs, leur entreprise paraissait véritablement tournée vers l'avenir. Ils s'asseyaient de temps à autre au bout des sillons, et c'était leur travail qu'on voyait se former sous nos yeux. J'ai l'impression que les hautes terres conviennent mieux à l'élevage du bétail que malgré tout à l'agriculture. Plus nous avançons vers l'ouest, plus nous remarquons la présence de bovins d'une très rare variété, une variété en tout cas totalement différente de celle de la région de Chicago. Des bovins plus élancés, plus sauvages, avec des genres de hautes pattes et des longues cornes gracieusement courbées. Et nous avons même vu des troupeaux de centaines de bêtes guidées le long du fleuve par les « cowboys ». Le conducteur du train a même stoppé les machines pour éviter une collision avec les animaux. Ça nous a laissé le temps d'observer la scène. Et bien sûr, je connaissais l'existence de ces cowboys par les périodiques que j'avais lus en ville et des bêtes qu'ils encadraient par les peintres. Mais c'était tout de même tout à fait étonnant. Alors nous étions là derrière les carreaux du train et nous observions les bêtes, les cowboys, les chevaux. Un spectacle étonnant. Voilà, l'étonnement de Maydod, oui, eh ben, c'est aussi le nôtre. Je crois qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour la suivre dans les Grandes Plaines. Alors, à bientôt!
Here's a song that comes from Tanzania.